Parlons sport sur RTVFM.
RTVFM.
Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs. Nouvelle saison qui commence ce soir. Je vais saluer ma coéquipière de la saison, Valérie.
Bonsoir Jean-Yves, bonsoir à tous. Et oui, une nouvelle saison.
Notre technicien, celui-là, il n'a pas changé. Théo, salut Théo.
Salut Jean-Yves, salut à tout le monde.
J'aurai la joie et l'honneur de passer cette saison avec vous aux commandes de l'émission RTV Sport. Et puis ce soir, on va attaquer avec du lourd, du gros, du bon.
Très lourd.
Puisque on est en présence dans les studios de Bruce Caudron, qu'on ne va pas vous faire l'offense de vous présenter, le boxeur, le talentueux boxeur. Il est accompagné de Eddie Knight Slimani. Lui aussi, on va pas vous faire l'offense de vous le présenter. Il est de plus en plus connu et reconnu. Et puis un petit nouveau sur la scène avec un nom qui va probablement vous parler, Mathieu Caudron, qui va essayer de défendre brillamment sa place lors du tournoi. Mais on en reparlera. Une émission consacrée en grande partie au 12e, c'est sa 12e, à la 12e édition du World GBC Tour qui aura lieu ce samedi soir à Mazan, à la salle de la Boiserie. Un spectacle extraordinaire, plusieurs combats, mais on y reviendra dans quelques minutes. Auparavant, on aura les résultats avec Valérie qui fera un petit retour sur le week-end sportif. On reviendra aussi dans 10 minutes à peu près sur les faits du week-end, des quelques faits marquants du week-end. Ça aussi, c'est une petite nouveauté. Il y a quelques nouveautés cette année. On reviendra un petit peu plus en détail sur les 2-3 matchs ou les 2-3 rencontres importantes du week-end. Et puis, j'ai un coup de cœur à passer. J'ai un coup de cœur à passer pour quelqu'un qui a été... un peu discret cet été, qui a pourtant réalisé un exploit fantastique, Lilian Emmerich. On reviendra sur son exploit réalisé pendant l'été. Il a descendu le Rhône à la nage, 812 km. On reparlera de cet exploit qui est un peu passé inaperçu. En tout cas, c'est mon coup de cœur de la saison. Tout au long de la saison, il y aura de temps en temps un coup de cœur, de temps en temps un coup de gueule. Ceux qui me connaissent savent que de temps en temps j'ai des coups de cœur et des coups de gueule, et cette année j'ai décidé de vous les faire partager. On va attaquer peut-être par les résultats, Valérie.
Oui, mais alors avant de donner quelques résultats, je voudrais rendre un hommage. Alors je ne sais pas si tu le connaissais, moi je le connaissais, c'est Vincent Gras, qui était joueur, entraîneur, dirigeant et vice-président du club de l'ABC Carpentras. Il nous a quittés précipitamment il y a quelques jours. Donc voilà, je voulais lui rendre un hommage. Et puis Vincent, je sais que de là-haut tu nous vois. Donc un gros bisou à toi. Et on pense, je pense moi personnellement, souvent à toi. À bientôt. Enfin, j'espère pas là-haut, quoi. Mais à bientôt pour parler de toi avec l'ABC Carpentras, justement. Ben, je vais continuer avec justement l'ABC de Carpentras. Hein. En U11 garçons région, Carpentras se déplaçait à Marseille et malheureusement s'est incliné 53 à 94. En senior garçons région, là encore, Carpentras se déplaçait cette fois-ci à Briançon et ils se sont inclinés aussi 71 à 83. Il y avait du motoball avec l'élite 1. Donc Carpentras se déplaçait à Monteux, donc un derby, et Carpentras l'a emporté 4-3.
Ouais, Carpentras qui aurait très bien pu être titré dès ce week-end s'il y avait eu un concours de circonstances. Ils ont été champions de France pendant un petit moment, pendant la soirée. L'égalisation de Monteux dans un premier temps et ensuite la différence de but, oui, leur est pas favorable. Ils peuvent être encore champions de France le week-end prochain. Oui. S'ils vont s'imposer à Camaret, ça va être épais,
quand même difficile, hein, parce que Camaret est costaud et bon, mais enfin on va y croire quand même, hein. Il y avait aussi un autre match, c'était la veille, Carpentras recevait Vaugecourt et là Carpentras donc s'est imposé encore une fois largement 9-0. Au classement général, donc Carpentras est premier avec 44 points, hein, et Monteux est cinquième lui. Donc le 12, effectivement, Carpentras va se déplacer à Camaret, actuellement quatrième, et il y a la place pour être champion de France.
On en profite pour saluer l'entraîneur de Camaret, Thierry Lafont, qui est un mec extraordinaire, qu'on fera sûrement venir dans la saison.
Il faudra faire venir Carpentras aussi, parce que bon, champion de France. Malheureusement, ils ont raté, peut-être, mais moi j'y crois. Parce
en tout cas, ils ont raté la coupe il y a quelques semaines, de pas beaucoup.
Ben non, c'était contre Suma 3. Et c'est Suma qui a gagné. Enfin, bref, on continue avec le handball, avec le Mazan Sorgue HB. Donc, en National 2, Mazan recevait Antibes. Et là, Mazan s'est incliné sur le score de 21-29. Donc, un résultat sans appel. Mazan pointe à la troisième place, donc derrière la Garde et Toulon. 17 matchs sans défaite, quand même, il faut préciser, avant cette défaite, depuis la saison dernière.
Ouais, donc, 17 matchs sans défaite. Ils étaient sur une grosse série. Et puis finalement, le coup d'arrêt, là où on l'attend. Pas.
Parce que Antibes, je crois qu'est cinquième, donc bon, c'est une petite contre-performance, mais on va quand même dire, c'est le début de saison, toutes les équipes sont quand même les unes derrière les autres, c'est pas encore fait. Hein.
En même temps, les séries 17 matchs sans défaite, c'est pas à vous, messieurs, que je vais la prendre, mais quand tu as une série une longue série de matchs sans défaite, au plus tu avances en série, au plus tu as de chances qu'elle s'arrête à un moment, cette série, elle s'est arrêtée là, il vaut mieux qu'elle s'arrête là. Qu'un peu plus tard dans la saison où les matchs seront plus importants.
Il y a en pré-national, donc Mazan s'incline donc 29-31 face à Gardanne. Pardon. En U18, en championnat de France, Mazan donc, l'a emporté 34-32 face à Bouillargues. Et Mazan est quatrième à 2 points du premier Montpellier et à égalité avec Toulon et la Garde. En rugby à 13, je ne vais pas te l'apprendre, les Élite 2, Carpentras s'est imposé 34-28 face à Toulon. Bao donc, recevait Entraigues et la Entraigues s'est inclinée 18-26. Pas une contre-performance quand même, hein, pour Entraigues, il paraît que c'était quand même un beau match.
Ouais, c'était un beau match, ça aurait pu faire l'objet d'un coup de gueule, mais on va pas commencer à taper sur
les arbitres
et la fédé de rugby à 13 d'entrée cette saison. Ça aurait pu, parce que des gens qui y étaient m'ont appelé et m'ont tenu au courant pendant le match. Et bon, voilà, quand on va du côté de Bao, c'est toujours un peu compliqué de s'imposer, à moins d'être très fort. Entraigues, juste pour la petite histoire, s'était imposé la semaine d'avant contre Ille sur tête, au prix d'un match extraordinaire. Ce jour-là, ils étaient 14 Entraigues et ils ont réussi à s'imposer à 14 avec un seul remplaçant.
Je continue.
On aura, juste pour le rugby à 13, Valérie, on aura Jérôme Alonso en fin d'émission aux alentours de 18h50. Jérôme qui revient de Lagos au Nigeria. Mm-hmm. Il a participé à la Coupe d'Afrique de rugby à 13. Et il aura plein de choses à nous dire. En tout cas, ça va être sympa.
Je continue. Donc Carpentras est 8e, donc avec un match de retard, puisque la semaine dernière il n'a pas joué. Et Entraigues est 5e. Donc voilà, pour moi, si juste une petite info concernant notre petit club, on va dire chouchou, c'est le club de football de Serres qui est actuellement au classement général 6e. Il rencontrait Malocène et il s'est incliné 0-2. On va espérer que notre petit club donc remonte aux premières places comme il l'a fait l'année dernière. Donc voilà.
Ouais, juste un petit mot de foot pour continuer, puisque Courtaison qui évolue cette année en R1, en régional 1, a fait un match nul du côté de Sainte-Maxime. C'est une excellente performance. Les filles de Monteux au foot ont raté leur qualification face à l'ACA d'Avignon, 2-0 sur deux coups extraordinaires des filles d'Avignon. Ça aurait très bien pu tourner différemment, mais voilà, en tout cas c'était un bon résultat. Un petit mot de rugby à 15, puisqu'il y avait un week-end off pour les fédérales 2 et les fédérales 3. Il y avait déjà eu un bloc de 3 matchs, donc la fédérale 3, si on fait un petit point rapide, le Ponté survole cette fédérale 3. Ils ont fait un énorme recrutement pendant l'intersaison. Ils sont invaincus jusqu'à maintenant et c'est pas parti pour changer. En fédérale 1, poule 2, Bédaride qui se déplaçait du côté de Nîmes. Bédaride a été défait sur le score de 19-20. Un match que mes copains de la SBC auraient très bien pu remporter. Ça se joue à pas grand chose, ça se joue à une ou deux erreurs de coaching probablement. Et voilà, la faute n'a pas de chance. Et en tout cas, Bédaride fait une plutôt jolie saison. C'était un match important. Nîmes qui était dans le coup aussi, juste derrière au classement. Voilà, en tout cas, ça laisse entrevoir ce match-là d'excellente journée à venir pour la SBC. Dans la même poule, Château Renard a pris la marée du côté de Nice, 38 à 13, je crois, ou un truc comme ça. Voilà, c'est Château Renard qui est par contre là promu en Fédéral 1, qui vient juste de monter. Ils sont en très très grande difficulté.
Ouais, pour l'instant, ils sont avant-dernier. Hein, c'est dur pour eux. Et puis Bédarid, bon, est quand même 8e à 6 points. Il faut préciser que le premier a quand même 19 points. Donc il y a déjà un écart entre les 4 premiers, ouais, alors, et les suivants. Hein.
Alors ce championnat, Valérie, il va être divisé en deux poules. Il y aura probablement. Les six premiers, on retrouvera Bourg-en-Bresse, Aubenas, Bourgoin, hier Carquet, Narbonne et Nice. Ils vont faire un championnat qui sera pas le même que le championnat des six autres. Ça va se jouer entre probablement la relégation, le maintien, ça va se jouer entre Castanet, les Catalans qui ont toujours pas enregistré la moindre victoire et ni le moindre point. Château Renard qui avait pris 50 points du côté de Bédarid il y a 15 jours. Ils sont avant-dernier. Mazamé, Serré qui viendra du côté de Bédarid le week-end prochain à 15h. Un match à ne pas manquer.
D'accord.
Voilà pour les résultats. Juste donc, on va revenir sur mon coup de cœur de l'été. C'était au mois de août, me semble-t-il. Lilian Emmerich, on le connaît. Les sportifs le connaissent du côté d'Avignon, parce que c'est un ancien pompier d'Avignon. Et c'est un mec qui a joué au rugby à l'époque à Saint-Sa. Lilian Emmerich s'est reconverti dans la natation de très longue distance. Il avait, pour la petite histoire, traversé, si ma mémoire est bonne, l'île de la Réunion à Madagascar. Il avait fait ça dans une cage pour pas se faire choper par les requins. En tout cas, il avait réussi à traverser le bras de mer qui sépare ces deux îles là. Et il a réédité l'exploit cet été au profit d'une association qui s'appelle Oldem. C'est une association qui aide les enfants en difficulté et les enfants handicapés. Lilian a nagé 812 km sur 8 étapes. C'est-à-dire qu'il a nagé à peu près entre 80 et 100 bornes par jour, même si ça descend, même si il a réussi cet exploit. Je tenais à le mettre en lumière parce que c'est passé presque inaperçu. Il n'y a pas eu de festivités plus que ça pour fêter ça. Et ce genre d'exploit, moi, ça m'interpelle un petit peu et je trouve ça extraordinaire.
Oui,
un petit mot, non ?
Ah, je trouve ça même extraordinaire, parce que pour faire autant de kilomètres, il faut se dire, surtout en amont, le travail qu'il y a à faire. Parce que bon, déjà qu'on va nager 5 kilomètres, c'est déjà 1 kilomètre, c'est compliqué. 5 kilomètres, ceux qui font des petits triathlons, ils font des XL, des XS, ils font des mois d'entraînement. Mais là, pour nager autant de kilomètres et en plus le répéter chaque jour pendant un certain temps, chapeau bas, félicitations à ce monsieur-là.
Une sacrée volonté. Hein.
Ouais, alors, c'est juste lui, c'est juste un monstre. Alors, c'est pas un monstre physiquement, parce qu'il doit peser quelque chose comme 50 kilos. Il est pas épais, mais quand on regarde les vidéos, il a nagé les premières étapes. Il est parti de la source, vraiment de la source du Rhône en Suisse. Il est arrivé à Port-Saint-Louis. Les premiers kilomètres dans des torrents, des machins, enfin, un truc de fou. Quand il est arrivé du côté de la Drôme, eh ben, il a eu le vent de face. Donc, à chaque fois qu'il envoyait un coup de bras, eh ben, il faisait 2 mètres en arrière. Enfin, voilà. Il était accompagné par les pompiers d'Avignon.
En plus, se battre contre les aimants, c'est pas simple. Hein.
Donc, voilà. Je tenais, j'avais juste envie de mettre Lilian Emmerich à l'honneur parce que il le mérite. Voilà pour les résultats, voilà pour le coup de cœur de la soirée. On va peut-être passer une petite musique et après on reviendra directement sur le World GBC Tour, une longue page puisque un peu plus d'une demi-heure sera consacrée au World GBC Tour et à la 12e édition.
TVFM.
Allez, de retour ici au studio du côté de Serres avec une large page consacrée à la 14e édition du World GBC Tour. Et nos invités, Bruce Caudron. Bruce Caudron, c'est 10 titres de champion du monde de boxe pied-point, c'est ça ?
K1, ouais.
K1. Eddie Knight Slimani, 2 titres de champion du monde, 2 titres de champion d'Europe, 75 combats, 70 victoires, 12 KO.
C'est ça ? Exactement.
Et puis, le petit nouveau de la bande, Mathieu Caudron, le frère... de Bruce, on va le dire une fois que c'est son frère, après on arrêtera. Mathieu qui va disputer son premier combat pro samedi soir dans le cadre de la Bruce Caudron Talent Cup. Donc on va revenir là-dessus. On va d'ailleurs attaquer directement avec la Bruce Caudron Talent Cup puisque tu es là, Bruce, et Mathieu est là aussi. Alors raconte-nous un petit peu cet événement-là.
Ben, on a mis un tournoi en place qui s'appelle le Bruce Caudron Talent Cup. C'est un tournoi où tournoi à 4, donc 4 boxeurs. Pour aller jusqu'à la finale, ben, ça fera forcément 2 combats. Et le tout, c'est qu'on veut des pros, des jeunes pros qui ont au moins, minimum, moins de 5 combats pros. Voilà, c'est sur un événement où on peut les mettre en avant, ben, c'est télévisé, une grosse promotion. Et ça permet de leur mettre un peu le pied à l'étrier pour la suite. Il y a des promoteurs, donc au moins ils se sont vus et pour continuer à boxer et se voir grandir. Donc c'est une belle étape, une belle première étape pour eux. Mais très compliqué parce que le choix des boxeurs que l'on met dedans, ben, on les voit toute l'année ou on les suit depuis quelques saisons et on les choisit bien.
Le niveau de cette Bruce Talent Cup, Bruce Caudron Talent Cup, c'est quoi ? C'est des mecs qui sont comme Mathieu, qui sont leur tout premier combat pro, mais qui ont déjà beaucoup de combats en amateur, c'est ça ?
C'est un peu ça en fait. Déjà, il faut qu'ils aient au moins de 5 combats professionnels. Au moins comme ça, ça rentre dans les clous. Après, c'est des gens qui ont un parcours amateur, qu'on a déjà suivi. On a pu le voir l'an dernier, on a fait le tournoi et qu'on voit ce qui deviennent ces boxeurs qu'on a mis. Un qui est devenu champion de France, un qui boxe déjà au niveau international, un qui a signé dans une grosse organisation comme le Glory, et un qui doit faire le titre face au champion de France. Donc en fait, on ne s'est pas trompé. En fait, l'équation était bonne.
Et cette année ? Donc, mis à part Mathieu qui va gagner, forcément, puisque c'est le meilleur et c'est le mec qui est le mieux préparé, les autres ?
Les autres, ils vont arriver pour faire la figuration, forcément. Les autres, on a trois autres combattants, deux qui vont faire leur premier combat pro. Il y a un qui a déjà boxé il y a à peu près 15 jours, 3 semaines de cela, qui a fait son premier combat et qui l'a remporté. Quand je parle de cet adversaire-là, il nous vient de Saint-Raphaël. Il avait chez les classes B semi-professionnelles, là c'est juste la saison dernière, il a effectué 14 combats, 14 victoires tout de même. Il a été champion de France K1, champion de France Muay Thai. Donc on sait qu'il a un potentiel, ça fait quelques saisons qu'on le voit. Il a des qualités, il a tout pour devenir un grand boxeur. Mais bon, si on veut devenir un champion, il faut battre des champions ou ceux qui veulent le devenir. Donc on les a réunis sur leur route. l'avantage que vous verrez un tournoi où il y a de l'engagement, de la technique, puisqu'ils sont passés par les bases techniques étant jeunes, mais il y aura beaucoup d'engagement, ce qui plaît au public en fait. Ils vont pas se regarder pendant une ronde et demie avant de mettre le premier coup de poing. Ils ont faim et ils veulent briller et se montrer.
Mathieu, comment on le gère ça, la préparation de ce combat? J'imagine qu'il y a un petit peu de pression parce que c'est ton premier combat pro, c'est ta première saison pro, ton premier combat pro, et tu le fais au sein d'une organisation que tu connais, puisque c'est ton club. Le challenge porte un nom que tu connais aussi. Comment tu le vis? Comment tu te prépares à ça? Et est-ce que le fait de s'appeler Caudron sur ce coup-là, c'est pas plutôt un poids ou un handicap dans ta préparation et dans le rapport que tu peux avoir avec les autres?
Le fait de s'appeler Caudron, c'est pas un handicap. Après, je le mets de côté pour éviter d'y penser. Et après, j'essaie de me concentrer que sur ma partie à moi, en fait. De rester concentré sur le combat. Et après, montrer que je m'appelle Mathieu et le nom, je le mets de côté pour...
Je sais qu'on doit être 50 000 à te poser la question, et après je vais arrêter avec ça parce que j'imagine que ça doit être compliqué de se faire un nom quand on passe derrière Bruce et de se faire un prénom quand on passe derrière Bruce. Il doit y avoir beaucoup plus d'attentes, j'imagine. Ça devait être déjà le cas en semi-pro.
Oui, déjà oui.
Ou même chez les petits en amateur, souvent ils comparaient les attitudes, le comportement. Oh tiens, il est comme toi, il fait comme ci, il fait comme ça. Et ça, c'est un truc. L'avantage qu'il est baigné dedans depuis tout petit et on n'est pas, moi je fais comme moi. C'est chacun a sa personnalité, on a sa manière de travailler, on a chacun son histoire. Vous avez vu, il y en a qui ont des frères, il y en a même qui ont des frères jumeaux et pourtant ils réagissent différemment, ils se marient pas à la même femme et la vie peut changer. Donc on part déjà sur cette base-là. Après, certes, c'est vrai que tout le monde en parle. Donc disons que c'est un avantage. Gardons-le, tu as déjà le nom. Fais-toi un prénom, fais-toi plaisir.
Est-ce que tu as envie presque de devenir meilleur du coup et de mettre les gants avec lui et de lui mettre un peu des taquets à l'entraînement? Est-ce que tu en es là maintenant?
Il le fait déjà.
Il le fait déjà, et alors tu ramasses un peu, vous, ça?
Ah, mais après, il y a deux choses, en fait. D'une, la partie un peu l'orgueil, j'ai été champion quand même. Et la deuxième partie, je suis le grand frère, on a été bien éduqués, tu vois, il y a le respect de l'aîné. Donc déjà juste sur ça. Et après, quand on commence à durcir un peu trop, j'ai dit, attends Mathieu, regarde, je vais te montrer. Et je travaille à l'expérience. Et là, voilà, c'est un peu le vice, on va dire. Mais
tu te branches un peu, non? Ouais, tu dis rien, toi, alors.
Il est effacé par rapport à Bruce, hein?
Ouais, mais je l'ai vu boxer, moi, déjà, et quand il est sur un ring, il n'est pas super effacé, en fait. Et tant mieux qu'il soit calme dans la vie, et c'est au moment où il faut être un peu agité.
Ouais, il les efface plutôt, ses adversaires. Mais
moi, justement, je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Yves. Quand on est comme ça... on essaye d'être l'image de son frère ou d'être meilleur que son frère. Enfin, moi, personnellement, si je devais combattre, j'essaierais d'être meilleur que lui, lui prouver que moi aussi, je peux être un champion, peut-être un peu, peut-être même mieux que lui. Enfin, mais 10 fois, c'est déjà pas mal, hein, quand même, champion du monde. Hein.
Oui.
10 titres, c'est beaucoup, donc il faut que tu en fasses 11. T'es jeune, tu peux y arriver.
Quel âge tu as, Mathieu?
J'ai 20 ans.
T'en étais où, toi, à 20 ans, Bruce?
J'étais champion de France pro, déjà.
Ah ouais?
Ah. Oui, mais c'est pas grave.
Bon, il va falloir que tu, mettes un peu là.
c'est pas pour lui mettre la pression, hein.
Dit-il en le regardant de travers.
Non, mais en fait, il y a autre chose, je vais juste rebondir parce que peut-être qu'il le sait pas et il percute pas. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas se tromper d'adversaire. Si on le dirige dans la question que vous avez posée, déjà, il se tromperait d'adversaire. Bien, je suis pas son adversaire, bien, je suis dans ce coin, je suis là pour l'aider. Et en fait, de faire plus que moi, il y a un décalage de génération et on s'en fiche, en fait. Est-ce que Zidane a marqué plus de buts que Platini? Mais on s'en fout. Pourquoi Platini a marqué l'histoire de son époque et il a réussi à se vendre mieux et il est mieux placé? Et en fait, il faut pas essayer de comparer, il faut pas se tromper.
C'est être lui-même, quoi.
Être lui-même, et c'est ça surtout l'important.
C'est toi qui seras dans le coin.
Et se régaler.
Samedi soir.
Oui, moi et David, on sera dans le coin, ouais. Bien sûr.
Écoute, Mathieu, en tout cas, on va te souhaiter le meilleur pour samedi soir. On sera là. Je viendrai t'interviewer. Je viens d'interviewer le vainqueur à la fin du combat.
Même le perdant, même s'il est perdant.
J'espère que ça sera toi. Non, mais ça sera le vainqueur en tout cas. L'autre événement marquant de la soirée, c'est le combat de Eddie Knight Slimani. C'est ça quoi.
C'est ça.
J'ai bien
ça.
Dit.
Tu l'as bien.
Ne me regarde pas de travers.
Non, tu l'as bien prononcé.
Et dis toi, c'est une étape dans ta préparation ou c'est vraiment un combat à part entière ou c'est un step dans ta préparation vers un autre championnat du monde, un truc un peu plus gros.
L'objectif, ça va être, on le sait, chaque année, Mazan, c'est une réunion très importante. Il faut bien commencer l'année. Je vais avoir en face de moi un adversaire très dur comme de nombreuses années. Hein. World GBC Tour, on nous fait pas de cadeaux. Donc oui, ça va être bien évidemment, c'est une étape, c'est pas une finalité. Il y aura d'autres combats très importants derrière. Mais comme je le dis à chaque fois, on se prépare combat après combat. Mais ce combat est très important parce qu'il faut bien commencer l'année. Donc,
Quand tu regardes un peu en arrière, là, je me rappelle, il y a 3 ans, tu avais hérité du main event sur une blessure de Bruce, me semble-t-il. Et,
c'était pas un cadeau.
c'était un truc un peu pourri d'ailleurs, mais tu as fait du chemin depuis.
Oui, écoutez, oui, il y a quelques années, il y avait eu la blessure de Bruce.
C'était il y a 3 ans ou 4 ans, c'est ça ?
Ouais, ça remonte un petit peu quand même. Du coup, j'étais passé en main event de la soirée, sachant que il faut quand même la porter, la soirée. C'est une réunion assez importante, c'est télévisé. Cette année, on a la chance d'avoir avec nous Canal Plus Sport qui va relayer les combats en différé. Donc oui, il faut la porter la soirée et puis comme Bruce l'a eu fait il y a quelques années, il faut continuer et perdurer dans ce sens-là.
Comment tu te prépares toi pour cette soirée là, parce que on s'est déjà croisé, je te vois souvent plutôt détendu avant les combats, c'est ta façon de faire. Malgré tout, il y a une énorme pression, une énorme attente autour de ton combat, puisque c'est toi qui auras le main event. On rappelle, le main event, c'est le combat de la soirée, le gros combat de la soirée, pour ceux qui ne le savent pas. Comment tu te prépares maintenant avec ton expérience ?
J'ai la chance de boxer depuis très jeune déjà, donc c'est un avantage aussi. Et puis après, il y a un travail mental qui est fait tout au long ces nombreuses années. Donc on se prépare. Oui, c'est vrai que je suis assez décontracté, relâché avant les combats. C'est un moyen aussi d'extérioriser. Je ne sais plus à qui je le disais. L'année dernière, j'étais avec les jeunes l'année dernière, il y a 2 ans même.
Tu vois, tu vieillis.
C'est des coups, ça. Non, c'était pour mon championnat du monde. Justement, quand Bruce... Non, je crois pas. Oui, c'était quand Bruce faisait également son championnat du monde contre Tokhtarov. Je me rappelle de parler avec les jeunes et de rigoler avec les jeunes qui faisaient la démo. Après, c'est un moyen, ouais, je pense que c'est un moyen d'extérioriser. Je suis comme ça et j'ai besoin d'être relâché, détendu. Je sais ce que j'ai à faire, sans aucune prétention, mais je sais le job et les attentes que l'on a envers moi. Et donc, automatiquement, je me mets dans ma bulle, mais tout en étant décontracté. Ouais. Ça fait partie de moi aussi.
Carrément, mais c'est bien. Bruce, comment tu le vois toi, Eddie, là, puisque c'est un peu la succession en attendant que Mathieu vienne à maturation, mais tu le vois un peu comme ton successeur là sur le World GBC Tour et même dans le club et dans la région. C'est un peu c'est la filiation, c'est ton boxeur, puisque tu es dans le coin là, quand c'est lui qui boxe.
Tout à fait, je vois que c'est un peu l'avenir de la boxe, surtout en France. Il a les qualités pour on va voir au-delà du côté région en fait, parce qu'il a vraiment les qualités pour être en France un des ambassadeurs dans sa catégorie et de faire beaucoup déjà par son style, sa technique, sa vivacité, son charisme. Il a de quoi faire. Après, c'est juste il faut gagner les bons matchs au bon moment, être présent et les remporter. Et on peut pour revenir à la même chose qu'on parlait de Mathieu tout à l'heure, ne pas se tromper d'adversaire en fait. Il faut savoir pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et après, tout le reste, c'est de l'à côté, la promotion, tout ça. Il faut d'abord gagner, se faire respecter et boxer sa boxe. Pas essayer de faire comme un monsieur ou une autre personne. Il faut qu'il reste lui-même et qu'il reste lui-même, il est très fort en fait, il est bon.
Moi, je voulais poser une question justement. Oui. à vous trois, hein, c'est pareil. Hein. Quand vous rencontrez un adversaire, est-ce que vous l'étudiez au niveau de sa boxe? Vous étudiez ça, ses combats
Alors, moi je vais prendre quoi? Je vais prendre mon cas.
Ouais, chacun est un peu différent déjà.
Ouais, on est à peu près tous différents. Moi, en fait, je regarde les grandes lignes de l'adversaire, en fait. Vraiment les grandes lignes, s'il est gaucher, droitier, comment il se comporte un petit peu, comment il se tient. Et puis après, je fais pas de fixette dessus. Parce que d'un combat à l'autre, c'est tellement, ça change tellement.
Ça peut varier.
Exactement, ça change tellement qu'on peut pas se dire oui, je vais mettre. Après, oui, il y a un game plan, il y a une stratégie qui est mise en place. Mais après, moi, je suis un boxeur d'instinct, je fonctionne comme ça. Et il faut que les choses, je le ressente, comme Bruce le disait, sans me poser de questions. Voilà, faut que ça soit instinctif. Après, oui, on regarde les grandes lignes du combattant.
Pour toi, Mathieu, c'est un petit peu différent parce que du coup, c'est des mecs que tu connais, c'est des mecs que tu as déjà vu boxer ou que tu as croisé les années précédentes ou tu vas complètement dans l'inconnu là.
Oui, tout à fait. Dans le tournoi, les deux qui vont se combattre la première partie. Les deux, je les ai combattus. J'ai perdu contre eux. Mais je sais comment ils combattent.
Tu sais ce qu'il y a à faire pour,
voilà, oui,
pour changer le truc, c'est ça?
C'est ça. Lui que je vais rencontrer, je sais pas comment il combat. Après, je fais en fonction de mes qualités à l'entraînement. On s'entraîne dur, donc il n'y a pas de...
Le format de la Talent Cup, c'est quoi?
C'est 3 rounds de 3 minutes. Pour les deux demi-finales et pour la finale, pareil.
D'accord.
Et il faut qu'il y ait un vainqueur, au PDK, il peut y avoir un extra round. Et après, il faut un vainqueur.
Les combats sont tirés au sort, c'est ça?
Là, on a déjà fait le tirage au sort, parce qu'en fait, deux sont déjà rencontrés, donc on a déjà mis les combats en place.
D'accord.
Après, quand on vient un petit peu sur ça, c'est vrai que chacun. Mathieu dit, bon, là, il connaît les adversaires. Son adversaire direct, il ne le connaît pas. C'est vrai que souvent nous chez les amateurs, les jeunes disent ouais mais je boxe, il est comment? Après même les parents ils viennent nous voir, je parle vraiment des jeunes, mais il a deux bras, deux jambes, une tête, il est comme toi, hein, il s'entraîne, t'inquiète pas. Souvent on se met une pression, on voudrait savoir comment exactement, mais ça change rien. Et pareil, moi je peut-être que certains combats j'ai étudié plus l'adversaire, mais sinon je regardais à peine, je savais qui c'était, j'avais déjà vu boxer. Mais il frappe fort, oui, mais sur quelle échelle? Sur une échelle, moi j'ai mal quand on me fait ça, je me mets en face de toi, j'arrive, tu as mal à quel moment toi? De 1 à 10, on n'aura pas la même échelle. Mais il frappe fort par rapport à qui? C'était contre qui? C'est exactement ça. Donc en fait, il ne faut pas se donner un repère.
T'arrives.
Déjà les grandes lignes, on voit comme il est, pas de problème. Tactiquement, ben, il faut se garder, il faut travailler comme ça, il faut se déplacer, se mettre en place. Et après, on va travailler sur nos qualités. On renforce nos points faibles à l'entraînement et on travaille sur nos qualités pour remporter le combat.
On se connaît, nous, Bruce, on se connaît bien même. Je sais que tu as ce détachement par rapport aux adversaires et que ta façon de voir le truc, toi, c'est de te dire, moi, je me prépare du mieux possible et quelque part, j'en ai rien à foutre de l'adversaire. Est-ce que tu arrives à transmettre ça? La préparation, oui, j'imagine. J'imagine que quand tu parles à tes boxeurs, tu arrives à leur dire il faut que tu sois prêt à 2000% pour être. Est-ce que tu arrives à justement leur dire ben voilà, ils ont deux bras, deux jambes, une tête. Est-ce que tu arrives à leur donner cette façon de voir les choses?
Si tu veux.
Bon, manifestement, il dit oui.
En plus, ce qui est bien, c'est qu'on va poser la question directement. Ils sont là, pose-leur directement la question. Moi, je vais te dire ce que j'imagine, mais j'ai pas leur ressenti. Mathieu, est-ce que tu en passes par rapport à ces questions, hein? Est-ce que la pression, comment je te la fais gérer et comment je t'amène par rapport à là où les adversaires que tu as boxé?
Je sais pas comment, je sais pas répondre en fait. La pression.
Ton idée, c'est quoi? C'est de te préparer au taquet et puis voir ce qui va arriver quand tu seras sur le ring, c'est ça?
Ce que tu disais tout à l'heure.
Oui,
tu t'entraînes
ça.
Pour toi, pour le match,
oui, voilà,
dur,
ouais.
Et voilà.
C'est ça.
Toi, Eddy, c'est t'entraîner au taquet. Toi, je sais que tu t'entraînes comme un sauvage.
Ouais.
Je sais aussi que tu as l'étoile d'or du KFC à Avignon. C'est pour être au poids.
Ouais. Du coup, on a mis en place un partenariat avec le KFC. Non. Non, moi, franchement, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un boxeur d'instinct. plus je vais mettre des restrictions, plus on va me dire il faut faire ça, il faut faire ça, je ne vais pas réussir. Il faut que je sois libéré, il faut que je sois bien dans ma tête, bien sûr avec les consignes de l'entraîneur et de Bruce, qui est aussi notre entraîneur, mais voilà, du coup il faut que je sois libéré, et après il faut que ça parte naturellement, instinctivement. Sinon c'est pas
ingérable.
C'est, ouais, je suis ingérable. Je vais faire des choses que c'est pas mon truc. Donc il faut que j'exploite au maximum mon instinct et.
Mais je crois que les entraîneurs doivent aussi se faire aux boxeurs. Hein.
Oui, après, ils s'adaptent
au tempérament de la personne, savoir prendre ses qualités, ses défauts, exactement. Et puis voilà.
C'est ça, en fait, il faut faire adapter à chaque personne, parce que sinon, ce serait facile. David dit, on a réussi à bousculer, il prend le même plan, il le fait à tout le monde, et ça on serait 27 000 champions du monde, mais pourtant, c'est pas le cas, donc il y a quelque chose qu'il faut peut-être adapter.
La suite de la soirée, le restant de la soirée, il y a Valverde aussi, me semble-t-il.
Ouais, mais peut-être je vais vous présenter un petit peu la carte.
C'est aussi pour ça qu'on t'a fait venir, vous.
En fait, déjà, il ne faut pas oublier que la veille, il y aura la conférence de presse et la pesée officielle qui se fera à la boiserie de Mazan. On va démarrer à 18h la pesée conférence de presse. Le lendemain, ouverture des portes, toujours à la boiserie pour la soirée. À partir de 17h, l'ouverture des portes. Premier combat à 19h. Il y aura deux combats amateurs. Une petite démo des enfants du club, déjà.
Avec le petit Ferré, le fils de Lionel, qui sera là.
Exactement.
Antonin.
Ensuite, Antonin. Deux combats amateurs. Et après, on part sur la carte pro. Il y aura 9 combats pro. On va démarrer ce soirée par le Bruce Conan Talent Cup, le tournoi qui se déroule en moins de 71 kilos. Et oui, c'est un sport de catégorie de poids, donc déjà à la pesée, on va voir s'ils sont tous bien au poids pour faire leur combat. Ensuite, il y aura la carte préliminaire présentée par Verdi Group, où il y aura Johan Avan face à Julien Arias dans les moins de 65 kilos. Ensuite, dans les moins de 57 kilos, Genies Luc, qui a remporté la Bruce Conan Talent Cup l'an dernier, qui va boxer Junoyan Matisse. Et dans les moins de 54 kilos, combat féminin, Gongora Emma, qui rencontrera Guenon Delphine. Ensuite, il y aura la finale du Bruce Conan Talent Cup. La carte principale présentée par RD Boxing, notre partenaire. Il y aura le combat des moins de 88 kilos. Le Lillois de club, en fait, Anthony Valverde, qui va boxer Boanan Suleiman, belge.
Ça va cogner fort, non?
Oui, là, ça va être un combat.
Parce que là,
c'est pas des inconnus quand même, ces deux-là.
Je me souviens de ça fait quelques fois que je vois Valverde, là, ouais. ça tape fort.
Il met beaucoup de coups, beaucoup de rythme, il a un gros cardio et il a un adversaire qui va être compliqué à manœuvrer. Je pense qu'on va avoir un gros, gros combat. Ensuite, il y aura le championnat de France Pro entre Austin Christophe et Androver Clément. Et on va finir avec le 1-2-3 Imprime Event, où on verra s'opposer Edina Ismeni face à Nakari Ivan en moins de 65 kilos.
Tu parlais de la pesée là, qui aura lieu vendredi soir. J'ai souvenir de ton dernier World GBC Tour là, où tu avais quasi gagné le combat la veille, où tu faisais t'avais calmé le gars en disant je suis pas champion moi, mais par contre c'est demain qu'on... Tu te rappelles, non? Tu te rappelles cette
c'était
réflexion?
C'était pas contre Kakerugono qui avait dit ça plutôt? C'est contre...
Il y a deux ans, là, où...
Peut-être trois, même.
Tu es en train de me traiter de vieux, Élie, c'est
en
ça?
En fait, simplement...
Faut qu'on parle tous les deux.
Mon dernier World GBC Tour, c'est pas celui qui va arriver, c'est il y a deux ans déjà, donc il y a plutôt trois ans ou quatre.
C'était le Coréen, non? C'était pas un Coréen ou une Corée?
Un Japonais.
Ou un Japonais, ouais.
Akirugono. Voilà, c'est ça.
Qui a fait l'UFC et tout.
C'est ça, où tu lui avais dit, mais de toute façon, c'est demain que ça va se passer. Ouais, est-ce que, les gars, est-ce que il y a une partie de la victoire qui se fait déjà à ce moment-là? Est-ce que ça peut se faire à la gueule, à l'intimidation? On a tous en mémoire les images des gros combats aux États-Unis là. Où on voit les
qui font les coques, quoi.
Ouais, ça fait les coques.
Boxeurs,
est-ce que au-delà de l'aspect juste spectacle, est-ce qu'il peut y avoir une partie de la victoire qui se gère là, Eddie, Mathieu?
Je pense concrètement que oui, on peut gagner un combat sur une
à la gueule.
Ouais, sur un face-à-face. Sur, après, c'est vrai que ça, voilà, c'est, ça reste un, quoi, ça reste un show. On est tous les deux sous pression. Les deux combattants, on est sous pression. On est quand même la veille d'un combat, faut pas l'oublier. Il y a le fait de se peser où on a eu des restrictions, donc on est un petit peu plus sur. Plus tendu, mais oui, je pense qu'on peut gagner un combat sur la pesée, c'est sûr et certain. Sur l'intimidation, en tout cas.
Mathieu ?
Je suis tout à fait dans le même avis que Eddy.
Toi aussi, tu branches un peu au moment de la pesée, t'as non. tendance à.
Non, je reste humble.
Tu restes humble pour le moment ?
Oui.
Pour le moment, parce que tu n'as pas encore le recul suffisant, mais en amateur, est-ce que tu. T'as gagné des trucs en amateur, est-ce que déjà tu te permettais de mettre un peu la pression, de brancher et de promettre l'enfer le lendemain. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de truc?
Non, après, ça restait sur le face-à-face surtout.
Ouais, au face-à-face, sur le ring, parce qu'en fait, le lendemain, au moment de la pesée, parce que souvent chez les amateurs, et à part dans certaines soirées ou en semi-pro, ils se pèsent la veille avec les pros, sinon les amateurs se pèsent le jour même. Donc déjà, on se pèse, il n'y a pas forcément de face-à-face, à part pour la photo, pour le journaliste, et c'est pas encore, pareil. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est amateur, on vient, il y a le combat, c'est pour l'apprentissage. Après, juste pour revenir à ta question, c'est vrai que j'ai gagné quelques combats déjà au face-à-face. Parce que des gens qui veulent te boxer, parce qu'ils veulent se faire un nom, un palmarès. Je parle par exemple de Julien Souve, qu'on a rencontré au World GBC Tour, où il y a quelques années, dans les soirées à Marseille, c'est eux qui veulent te boxer. Il y a un nom, il y a quelque chose, un palmarès. Ils savent que s'ils te boxent, après, ben, d'une, leur prix va augmenter s'ils gagnent. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, ou même pour faire un titre. Et ils auront plus de légitimité. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils se retrouvent face à face, ils se rendent compte du ah, mais. Déjà au face à face, il faut passer, il bouge pas, on sent rien. Déjà, voilà ce que je t'exprime dans le regard. Si il ressent quelque chose, toi, si tu arrives à lui transmettre ton truc. Et là, il se rend compte du problème qu'il va avoir à faire le lendemain. Et déjà, lui, je sais que moi, la nuit, je dors tranquillement, je me réhydrate, je remange comme il faut. Lui, il passe sa nuit à cogiter. Le lendemain, qu'il passe sur le ring, on le voit dans les premiers instants, juste comme il se déplace et s'il attaque vraiment ou si on sent qu'il est tendu. Et ça change tout la physionomie du match.
Comment vous êtes là, Edith? Comment tu es là, les quelques jours qui précèdent le combat et même la veille ou dans la journée? T'es détendu? T'es comme quand t'arrives à la salle où il y a quand même un peu la boule là, au bide?
Non, la pression, on l'a toujours. Après, on apprend à la gérer. Faut pas que la pression, c'est bon. Ça permet de se galvaniser, de se transformer.
Pas celle que tu bois. Hein.
C'est pas la même.
T'en bois pas, toi.
Du coup, non, avoir la pression, c'est bien, c'est cool. Et moi, je me dis, les semaines avant le combat, je suis content. Je suis content de faire ce que je fais. Je me suis entraîné dur. J'ai passé des moments difficiles à l'entraînement. Et voilà, tout ça pourquoi ?
Pour
ce combat. Donc c'est là, c'est le moment. Donc je suis heureux de monter sur le ring, malgré que ça représente pas mal de risques quand même, hein. Mais je suis content et heureux de monter sur le ring et de me faire plaisir, tout simplement.
Mathieu, comment tu appréhendes le premier combat, ton premier combat pro? T'as bossé depuis que t'es gamin pour en arriver là, finalement. Même si c'est qu'une étape, c'est un step quand même. Là, t'es là où t'es c'est le premier step, là où tu t'étais promis d'arriver. Oui. Comment tu le vis? Est-ce que t'arrives à évacuer complètement?
Oui, j'arrive à évacuer. Après, la dernière semaine, j'ai un petit peu de stress, mais après le jour de la pesée du combat, j'ai le stress y part.
Qu'est-ce qui reste à faire là? Parce que là, j'imagine que à J-4 ou J-5, on est dans le détail.
Déjà le premier combat. Pour le boxeur, c'est le poids. Régler son poids et le régler de manière cohérente et comme il faut, parce que se mettre au poids, tout le monde peut y arriver. Non. Si le lendemain on n'avance plus, si aurait un gros challenge ou pour quelque chose d'intérêt, tu le ferais, mais autant 24 heures après, tu serais pas efficace. Parce que on arrive tous à arriver au poids, on fait des gros sacrifices, mais ça se gère parce que le lendemain, 24 heures après, il faut être performant.
Je voulais poser une question à Eddy, oui. Concernant la pression. Quand on sait qu'un match.
Fout, lui, de la pression. Alors
oui,
là,
non, mais je sais.
Il faut que tu le vois faire.
Mais non, mais.
Non, bon, c'est pas quand même.
Voilà. Ce que je veux dire, c'est le fait de savoir qu'on est retransmis à la télé, est-ce que ça met pas une pression supplémentaire?
Non, pas forcément.
Tu fais abstraction de
ça? Oui, on fait abstraction de tout ça. On est dans notre bulle, en fait. C'est vrai que c'est difficile à décrire, mais on est. Voilà, on est. on essaie.
Parce que là, il n'y a pas que la boiserie. Là non, c'est oui, la c'est France clair. Entière qui peut voir oui. même plus.
Mais après, on est dans notre bulle et dans le combat, on n'entend que les consignes dans notre coin. C'est des voix qui nous sont
familières, familières, que tu entends.
Que l'on entend. Donc, notre cerveau, il est concentré premièrement sur le combat, mais on écoute ce que le coin dit et on est vraiment dans une bulle à part entière.
Qu'est-ce qui reste à travailler là, donc à part le poids? Ça va être là, il va falloir le gérer maintenant, le poids. Là, et là vous êtes dans le détail maintenant,
ouais,
j'imagine
c'est
que
certes, c'est le détail, mais le travail est fait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est continuer à se régénérer, récupérer au maximum. Là déjà on met plus les gants, donc dans quelques jours ça commence à avoir le manque parce que mince, mais le combat approche, faut que je mette les gants, faut que je touche, faut que je travaille. Mais ça, ben bien, on va leur laisser, au contraire, on va leur laisser ce manque pour que l'avoir pour le jour du combat. C'est important de jouer sur ça. Et en fait, on va travailler, mais vraiment des instants vraiment très courts d'entraînement et jouer sur la récupération. Vous voudriez faire plus que, ah, il y a le poids. Non, on fait que ça, ça suffit. Et voilà, ça fausse un petit peu, mais il faut récupérer. On a tendance, comme tous, quand on arrive à l'échéance, il faut tout faire, on veut tout faire bien, parfaitement, et on veut en faire, et souvent on en fait trop, et c'est là où il y a une erreur. C'est ça qu'on veut être professionnel. Faisons les choses de manière professionnelle.
Messieurs, l'heure passe, malheureusement, il est déjà moins 10, ça fait une grosse demi-heure qu'on parle, on aurait pu encore parler pendant
longtemps.
On sera samedi soir à la boiserie, je serai accompagné de mon comment on appelle ça,
alcoolique.
Non, il est pas alcoolique celui-là. Non.
Acolyte. Quand même, ne mélange pas tout, la pression et tout.
Non. Non, je serai accompagné de Lionel, mon consultant en boxe. Voilà.
C'était ton acolyte.
C'était mon acolyte jusqu'à il y a pas
longtemps. La saison dernière.
On va vous libérer, messieurs. Merci encore pour votre disponibilité.
Merci à vous.
On se verra après le combat. Peut-être on aura l'occasion de se croiser avant aussi. Et j'espère que j'aurai la chance d'interviewer les vainqueurs de la
Bruce Codron
Talent Cup et le vainqueur du main event.
J'espère aussi. Le travail a été fait, maintenant il ne reste plus qu'à.
C'est tout ce qu'on vous souhaite, messieurs. Bruce, merci pour.
Merci beaucoup pour cette émission et au plaisir de revenir.
Il n'y a pas de souci, tu reviens quand tu veux. Hein. C'est pas la première fois que tu viens, donc même Eddy. Hein,
à très bientôt, les copains. On va mettre une petite musique en attendant Jérôme Alonso, s'il y a moins qu'il soit déjà là. Allez, on va mettre une petite musique et on prend Jérôme dans 2 minutes.
Quelqu'un qui m'a dit, et ça ira mieux. La roue va tourner, t'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu, suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas le seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu, et ça ira mieux. N'écoute pas les gens, marche droit devant, te retourne pas, y'a rien là-bas. L'avenir est à toi, continue comme ça. Encore une dernière fois, vas-y, écoute-moi. Ça ira mieux, si t'es tombé si bas, c'est pour aller plus loin. Accroche-toi à tes rêves, fais confiance au destin. T'inquiète, à deux, on ira très loin, loin. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Et ça ira mieux. la roue va tourner. T'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu. Suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Et ça ira mieux.
Sport sur RTVFM.
Allez, de retour pour la dernière partie de cette émission. On vous a pas dit dans la présentation, mais nouveaux horaires, 18h-19h. Oui. C'est un petit peu plus court, un peu plus concentré. Voilà. La dernière partie de cette émission va être consacrée au rugby à 13 avec Jérôme Alonso. Jérôme qui a beaucoup de choses à nous dire, l'entraîneur de Carpentras 13.
Et qu'on recevra normalement la semaine prochaine.
Et qu'on recevra sûrement s'il veut bien venir avec nous
la semaine prochaine.
Jérôme, est-ce que tu es là?
Oui, oui, je suis là.
Ah, salut mon pote. Jérôme, d'abord, deux petits mots sur ta nouvelle fonction, entraîneur du Maroc. Tu arrives du Nigeria, c'est ça?
Oui, c'est ça, on est rentré hier soir du Nigeria où on a participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais.
Alors raconte-nous en deux mots, parce que je sais que tu as beaucoup à nous dire là-dessus, mais peut-être qu'on te fera venir la semaine prochaine pour que tu développes un petit peu.
Ben écoute, on est parti au Nigeria participer à cette compétition avec 17 joueurs, donc 4 franco-marocains qui jouent dans le championnat français et 13 joueurs locaux qui jouent dans le championnat marocain. Donc ça a été un peu une surprise parce que les joueurs marocains n'avaient jamais joué de véritables matchs à 13, ils évoluent juste à 9. Donc l'apport des 4 joueurs français a été vraiment très très importante pour élever le niveau de cette équipe. Par contre, on a vécu une expérience humaine fabuleuse et j'ai rencontré des gens vraiment, vraiment extraordinaires, une autre culture qui m'a permis aussi de voir comment ça se passe chez les autres. Et franchement, je suis vraiment très très content de cette expérience. J'ai rencontré les quatre joueurs franco-marocains, c'est vraiment des personnes exceptionnelles. C'est une aventure que j'oublierai jamais et que j'espère revivre un jour.
Jérôme, on va essayer de faire vite. Raconte-nous Jérôme, la transition entre la Coupe d'Afrique des Nations et Carpentras hier.
Allô?
Juste en deux mots, la transition entre la Coupe d'Europe, la Coupe d'Afrique des Nations et la Roseraie hier, ça a dû être un petit peu déstabilisant, compliqué, non?
C'est déstabilisant. C'est vrai que manquer le premier match à la Roseraie, c'était quand même quelque chose pour moi d'un peu exceptionnel. Moi, je savais que je pouvais compter sur Maxime et sur Marco Roccaro qui a donné un coup de main à Max pour préparer l'équipe, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre de pas être présent, et surtout j'étais dans l'avion pendant le match, donc je savais pas le score et il me tardait d'atterrir pour savoir ce qu'on avait fait.
Un mot là sur ce qu'on t'a dit, parce que finalement c'est plutôt une bonne façon de commencer la saison, une victoire, même si elle a été un peu poussive manifestement. En tout cas c'est une victoire. Tu étais un petit peu inquiet quand on s'était vu il y a 15 jours, mais finalement voilà.
Oui, je suis content parce qu'en plus on a eu pas mal de soucis donc pour faire cette première feuille de match due aux suspensions, due à certains joueurs qui, comme chaque année, mettent du temps à remplir la licence, donc certains joueurs qui pouvaient pas jouer. On avait 3 juniors qui faisaient leur premier match en élite. Sur la feuille de match, il me semble qu'on en avait 6 au total. Donc c'est quand même une très bonne chose d'avoir gagné ce premier match, même si voilà, j'ai eu un peu des échos. J'ai fait le débrief avec Max qui m'a un peu expliqué. Je vais regarder la vidéo du match demain pour voir de mes propres yeux ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que c'est toujours important de commencer par une victoire qui plus est à domicile.
Bah écoute, Jérôme, je te propose de venir nous parler de tout ça la semaine prochaine, si tu es dispo.
Ouais.
Je te rappellerai, si tu pouvais être là lundi soir à 18h, ça serait parfait. Je te rappelle et on se cale. En tout cas, Jérôme, ça a été un peu court. Merci pour ta disponibilité et on se rappelle très vite.
Ok, ça marche. Merci à vous.
Merci, Jérôme. Salut.
Allez, au revoir.
Ben voilà, ça a été court avec Jérôme et pour la partie rugby à 13.
Mais on le verra la semaine prochaine, il nous en dira beaucoup beaucoup plus.
Merci Valérie pour cette première en tant que
ben nouvelle émission, nouveaux horaires, c'est vrai.
Ouais, c'est un peu plus concentré mais on va s'y habituer en tout cas c'était bien.
Voilà, on s'est régalé avec Bruce, Eddy et Mathieu donc.
On se retrouve lundi soir 18h-19h.
Voilà, avec Jérôme, entre autres.
Valérie, par contre, j'ai zappé l'heure de la rediff.
Mercredi de 7h à 8h.
Voilà, ouais. Mercredi de 7h à 8h, vous pouvez nous retrouver sur RTVFM et sur Internet. Sinon, c'est le 102.2. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.